France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est une industrie, un business hélas florissant, qui affiche des valeurs de dignité et de respect, mais s'épanouit bien souvent sur le chagrin, la douleur, la perte. Le client qui arrive dans une boutique de pompes funèbres est souvent en état de choc, bouleversé, démuni. La mort peut être arrivée brutalement, sans prévenir, ou bien à petit feu. Mais entrer et choisir un cercueil pour un proche ne peut pas être un moment agréable. Et là, on se dit, a priori, que l'éthique du commerçant devrait lui commander de ne pas profiter de cet état, de cette faiblesse, pour lui vendre des produits funéraires onéreux. Or, il semble que ce soit de plus en plus le contraire qui se passe. Et le client, au mieux gêné, au pire carrément honteux de passer pour un radin à ce moment aussi délicat, se laisse faire. Qui refuserait de payer une dernière demeure, comme ils disent, à un proche bien-aimé? Voici donc des poignets en plaqué or, un capitonnage en soie, des tissus nobles, velours, taffetas, satin, un oreiller bien confortable, une couverture délicate, un cercueil en pain massif, le modèle Chambord à 6000 euros, avec des finitions très travaillées. La vente s'accompagne de tout un vocabulaire qui euphémise la mort, pardon, le passage, jusqu'à l'arrivée tant attendue de la carte bleue. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais trop souvent. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, on parle de cette industrie du chagrin qui rapporte tout de même chaque année en France 3 milliards d'euros. Et on passe de l'autre côté de celui des travailleurs du funéraire qui doivent faire du chiffre comme tous les vendeurs.
Je suis Pierre, je suis retraité et j'étais conseiller funéraire pendant 35 ans dans un groupe. Alors comment je me suis lancé ? J'ai débuté comme ambulancier. J'étais beaucoup sur des accidents de voie publique, accidents de voie ferrée. Au début, ça a été difficile. J'ai encore dans ma tête des choses qui me marquent. J'ai eu un jour un décès dans une ambulance. Je me suis posé des questions. J'ai dit, mais que doit-on faire? On n'avait aucune information. Et donc, je me suis dit, je veux évoluer. Je ne veux pas rester à faire que ce travail. Et donc, j'ai demandé comment ça se passait pour être conseiller funéraire. Je suis rentré dans cette grande entreprise que je côtoyais régulièrement. Et on m'a demandé... Pourquoi tu ne viendrais pas travailler chez nous ? J'avais postulé pour être porteur, c'est-à-dire pour porter les cercueils, et on m'a dit, non, on va vous mettre dans les bureaux. Et donc là, j'ai eu une formation interne par l'entreprise pendant 13 ou 14 semaines à Paris. Cette entreprise, à l'époque, était considérée comme une entreprise d'élite. Moi, je les voyais travailler, je disais, mais c'est vraiment le top. Il y avait une classe, il y avait une qualité... Voilà. Une fois ma formation terminée, j'ai travaillé dans un grand bureau. Nous étions 5 conseillers funéraires commerciaux et il y avait une grande salle d'attente, une exposition de cercueils. Et à tour de rôle, donc, chacun prenait une famille. Moi, je m'impliquais beaucoup, je demandais tout le temps de quoi était décédée la personne, puisque la vie quand même de la personne dont on va faire l'inhumation ou la crémation, pour moi c'est une chose importante, puisque c'est une personne qui était sur cette terre et qu'on a besoin d'accompagner dignement. En 2018, il y a eu l'arrivée d'un nouveau directeur. Ce nouveau directeur mettait en place des choses... Alors qu'il n'avait aucune notion du métier, il ne connaissait rien au funéraire. Et là, donc, l'entreprise a totalement changé. On nous demandait de faire du chiffre, alors qu'on ne nous le demandait pas auparavant. Chaque mois, nous avions un rendez-vous avec notre directeur. Il éditait ce qu'on appelle le contrôle de gestion par commercial. Puisqu'à la fin, on était commercial pour moi, on n'était plus conseiller. Donc chaque mois, on avait notre directeur qui passait à l'agence, qui venait voir chaque conseiller avec un tableau, avec les quantités de ventes sur les cercueils inhumation, crémation, le total d'obsèques qui était fait, le prix moyen du cercueil inhumation, le prix moyen du cercueil crémation, le prix des urnes, enfin chaque produit vendu était mis sur ce tableau, toutes les prestations. On avait donc un prix de vente moyen en euros qui commentait. Donc, quand on avait du fluo vert-jaune, c'est que tout était bon. Par contre, quand il y avait du rouge, c'est qu'il fallait s'améliorer. C'est-à-dire que quand on avait un prix de vente moyen de cercueil inhumation qui n'était pas bon, on nous demandait derrière d'augmenter un petit peu pour augmenter le chiffre. Puisque il faut savoir que notre direction, que ce soit mon directeur, le directeur régional et ainsi de suite, plus les chiffres étaient bons, plus ils avaient une prime, eux, plus importante. Quand cette nouvelle direction est arrivée, on n'avait plus d'exposition donc de cercueils et on présentait les cercueils sur des plaquettes. On nous avait appris que une famille qui était pouponnée, c'était une famille qui s'attendait au décès. Une famille qui arrivait, qui était en jean, c'était une famille lambda. Et là, on pouvait déjà un petit peu, au niveau du budget, savoir à qui on s'adressait, si on veut. Et il y avait une plaquette de vente pour les cercueils inhumation et crémation. Et là, on tombait sur 4 gammes de cercueils. Donc, les premiers prix, on était aux alentours de 1 000 euros. Et ça pouvait varier jusqu'à un prix de 5 000, 6 000 euros. Sauf que en annexe, on avait une autre plaquette. Et cette plaquette de vente, il y avait 2 autres modèles de cercueils que la plupart des commerciaux n'utilisaient pas, où l'on retrouvait un cercueil qui coûtait aux alentours de 650-700 euros. Moi, quand je commençais mes ventes, je commençais toujours à présenter le cercueil bas de gamme, le premier prix. Mais quand les ventes n'étaient pas bonnes, on avait souvent, il a été vendu trop de cercueils à 700, 800 euros. Et quand on appelait la planification, là où se trouvaient les cercueils, on nous disait, il n'y en a plus. Donc, on était contraint de vendre le cercueil qui était 300, 400 euros plus cher. J'aimais pas cette politique, ce mode de travail. Tous les anciens sont partis. Il restait quelques-uns encore dans l'entreprise. Les nouveaux commerciaux qui arrivaient ne prenaient pas l'habitude de demander aux familles quelle était la corpulence du défunt. Et donc, il m'est arrivé un jour de remplacer un collègue sur une cérémonie. Et au moment où nous sommes arrivés pour la mise en bière, quand j'ai vu la taille du cercueil par rapport au défunt, j'ai dit « Oulala, on va avoir un sérieux problème. » Il était impossible de mettre le défunt dans le cercueil. L'église attendait derrière, donc on n'avait pas le temps de retourner au dépôt, de préparer un autre cercueil. Là, j'ai dit à la famille, j'ai dit « Excusez-nous, mais on va devoir faire la mise en bière dans le laboratoire. » Vu la situation, je n'allais pas faire des manipulations devant la famille. Malheureusement, le défunt, on n'a pas pu le mettre correctement à ma façon dans le cercueil. Donc il a fallu plier les genoux, il a fallu tasser, on n'avait plus le temps. Fallait toujours qu'on trouve une solution. Des fois, il nous arrivait même de mentir ou de faire des choses. On était dans l'obligation. Voilà. Les pompes funèbres, ce n'est pas comme une boulangerie. Hein. On ne va pas acheter sa baguette. Les familles arrivent, certaines, même beaucoup, ne connaissent rien sur le domaine du funéraire. Ils ne savent même pas de ce qu'il y a besoin pour faire des obsèques. Quand il y avait un décès à l'hôpital, il faut savoir qu'à l'hôpital, vous avez le droit à 3 jours de gratuité. C'est-à-dire que le défunt peut rester là-bas, dans un salon, pendant 3 jours. Et nous, l'entreprise, nous demandait de ramener le défunt dans notre maison funéraire. Donc, dans ce cas-là, en plus, on facturait le transport, qui était à 600 euros, et après la maison funéraire et le salon. Alors que l'hôpital, c'était gratuit. Donc, les familles qui ne savaient rien, si vous leur disiez « il n'y a plus de place à l'hôpital, on est obligé de ramener votre papa, votre maman à la maison funéraire », les familles disaient « bah oui, faites ce qu'il y a de mieux pour papa ». sur tous les produits. On avait des arguments pour vendre, hein, donc l'exemple du soin de conservation. Voilà, votre maman est décédée vendredi, les obsèques sont mardi. Si vous voulez vous recueillir dignement et qu'il n'y ait pas de dégradation au niveau de votre maman, on vous conseille les soins. Alors que moi, j'ai un membre de ma famille qui est décédé d'un cancer, qui a été enterré 10 jours après. On n'a pas fait de soins et tout s'est bien passé, quoi. Donc, après, chaque personne réagit différemment. On m'a demandé de faire du relationnel, c'est-à-dire d'aller voir les hôpitaux. On allait avec des croissants. Pour dire, voilà, on existe, faut pas nous oublier. On allait voir les curés, on allait voir partout où on pouvait récupérer du décès, les EHPAD, les maisons de retraite. Donc, on devait se montrer. Il faut savoir qu'il y avait un classement hein, par région. L'entreprise avait décidé d'envoyer les meilleurs vendeurs au Maghreb pendant 10 jours. Ensuite, il y a eu un changement au niveau des creusements. Avant, c'était la ville qui faisait les creusements. Donc la ville demandait 165 euros et par restriction budgétaire, ils ont retiré ce qu'on appelle les fossoyeurs. Et donc ça nous est revenu à nous, sauf que nous, on facture 700, 800 euros pour un simple trou dans le cimetière. Là, j'ai revu des anciens collègues qui m'ont dit que maintenant, ils faisaient travailler l'IA. Donc, ils vont devoir demander aux familles 3 choses ou 3 passions sur la vie du défunt. Le commercial rentrera, je pense, le nom, le prénom, date de naissance, puis les 3 passions. Et l'IA fera automatiquement un genre de livret qui sera vendu. Mais c'est pour parler actuellement dans l'entreprise. Avant, je venais de bonne heure au bureau. J'arrivais même 1 heure avant au bureau. J'étais gai d'arriver au travail. Vers la fin, j'arrivais vraiment à reculons. Souvent, on me disait, oui, Pierre, t'es en chute libre au niveau des chiffres. La pratique de l'entreprise, je ne la supportais plus. J'ai quitté l'entreprise à 62 ans et je ne regrette pas. Mes 32 ans, ce que je garde, c'est le sourire que j'avais de certaines familles qui revenaient, qui au départ venaient me voir avec les larmes et qui revenaient quelques jours après pour payer la facture en me remerciant de cet accompagnement, de ce que j'ai fait pour leur papa, leur maman, leur fils, leur enfant. Et j'ai beaucoup, beaucoup de clients avec qui je suis devenu ami maintenant.
Culture. Les pieds sur terre.
Je suis Cécile, j'habite au Bonneau, j'ai 54 ans. J'ai un parcours assez divers, issu de la com, du graphisme. Et je me suis interrogée post-Covid du sens de ce que je faisais et l'envie d'être utile. Et à un moment aussi, j'ai refait un peu le bilan de vraiment ce qui pouvait m'animer. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un fil rouge qui avait rapport à la mort. À la mort, au départ, au passage et à l'accompagnement. Parce que j'ai été souvent présente par les hasards de la vie pour accompagner des personnes en fin de vie et aussi à ce moment fragile du passage. Donc je me suis dit, tiens, le funéraire, mais c'est quoi ce métier ? Donc je me suis dit que le plus simple, hein, c'était d'y aller. Hein. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu les offres d'emploi. Puis très vite, j'ai vu qu'il y avait multitude d'annonces pour être porteur funéraire en intérim. Je suis donc poussé la porte d'une agence intérim. Et le lendemain, j'avais un rendez-vous pour être porteuse. Et j'ai commencé le surlendemain. J'avoue que j'étais un peu affolée. parce que je, des défenses, j'en avais pour le fait croisé, mais il m'était proche. Et là, je ne sais pas comment je vais réagir. Et ensuite, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, alors, c'est peut-être très genré de penser à ça, mais mon Dieu, comment je vais m'habiller? Je pars de chez moi en tenue de croque-morte, hein, avec un pantalon noir, une chemise blanche et une veste pas vraiment adaptée, j'avoue, qui était une veste un peu Spencer, un peu courte, en fait, style boléro. Pour ma part, je ne trouvais pas que j'étais particulièrement présentable. J'étais impressionnée et tremblante. Et j'arrive au dépôt et voilà, on me dit, bah là on part sur une mise en bière telle heure, cérémonie telle heure, on revient au dépôt telle heure. Les mises en bière, c'est souvent le défunt est présenté soit en chambre mortuaire, soit en funérarium, soit au domicile d'ailleurs. Et vient le moment en fait des funérailles, on déplace le défunt de son lit de présentation au cercueil, à l'intérieur du cercueil. Il y a un défunt, mais j'étais pas dans la surprise ou l'effroi ou le dégoût. J'ai cette fébrilité de vouloir bien faire, mais de pas savoir, puisqu'on n'a pas de formation. Là, c'est vrai que pour le coup, sur cette première fois, j'étais un peu empotée. Je regardais comment les choses se faisaient. On me dit, tu fais ci, tu fais ça. Ok, j'arrive. J'ai l'impression d'être dans les pattes de tout le monde, parce que tout est assez chorégraphié, réglé. On m'indique au fil de l'eau ce que je dois faire, comment je dois faire. Toi, tu restes derrière la porte, t'attends qu'on toque pour entrer. On est 4, voire 5 avec le maître de cérémonie. On met des gants pour des raisons sanitaires, d'hygiène. Et chacun prend une partie du corps. Et c'était moins lourd que je pensais. Ensemble, on emmène le défunt dans le cercueil. Et là vient, en fait, après la pose du couvercle. Et nous intervenons en tant que porteurs à toutes ces étapes. On aide à mettre les vis, vissage, pose de scellé s'il y a crémation. Et ensuite, on le porte. Tous les transports, les déplacements. Alors, il y avait un peu de tension, parce que comme j'étais nouvelle, il m'avait à l'œil, ce qui est assez rassurant en soi. Et dans les moments de travail effectif où on est soit avec les familles ou soit avec le défunt, il y a assez peu de paroles. Mais moi, je n'osais pas poser des questions. Je ne faisais que regarder mes collègues pour voir ce que... Et apprendre et voir et savoir où me positionner pour être... Quand les familles se recueillent en chambre funéraire et que nous sommes en partie technique, alors évidemment, on ne parle pas très très fort puisqu'on est troublé ce moment. Mais voilà, on discute, on se raconte nos vies. Cette première journée, j'étais contente. Il faut quand même savoir qu'on est très mal payé. On est payé au SMIC pour une fonction qui est avec une responsabilité qui est quand même énorme. On peut rater son mariage, il se peut qu'on en refasse un. Mais des funérailles, tu n'en auras pas deux. Il y a zéro droit à l'erreur. C'est juste pas possible. J'ai dû rester un an porteuse avec le soutien d'un maître de cérémonie, Michel. Il a commencé à, par son exemple en fait, tout simplement, à me former. Et une fois, j'étais dans le corbillard, l'équipe, Michel est le maître de cérémonie, on est 4 porteurs, dont une porteuse, moi, et Michel me dit, eh bien là, c'est pour toi, cette cérémonie, c'est la tienne. Ok, il me dit, sois sans crainte, ça va être une cérémonie tranquille. Sauf qu'il faut savoir que dans les pompes funèbres familiales, dans les bourgs et en ruralité, souvent le conseiller est aussi le maître de cérémonie. Mais dans les groupes, la famille pousse la porte de l'agence, rencontre le conseiller funéraire, met en place la cérémonie Et ensuite vient le jour de la cérémonie, où là, ce n'est pas le conseiller qui intervient, mais le maître de cérémonie, ainsi que les porteurs. Donc personne ne s'est vu, personne ne s'est rencontré, personne ne se connaît. Ce qui fait que, on ne sait pas ce que va être la cérémonie, c'est une surprise à chaque fois. On a les fiches famille la veille, avec un peu de chance. Et puis, à nous d'aller chercher des infos sur le défunt. Donc, moi, la famille qui m'est échue ce jour-là, je ne l'ai jamais rencontrée. J'avoue que je suis un peu tremblante, là, pour le coup. J'ai l'affiche devant les yeux 5 minutes avant de les rencontrer. Une famille vantaise. Au moment de la mise en bière, les enfants, c'était les enfants du défunt qui étaient là, ils viennent nous voir en me disant « Ça va, il était gentil, il n'a pas trop bougé ?» Alors pour une première cérémonie avec en fait un premier rapport direct avec les familles, ça laisse un peu sans voix. Et là, je les ai regardés avec un grand sourire, je leur ai dit « Soyez rassurés, il a été parfait. » Ensuite, la cérémonie s'est plutôt bien déroulée, mais pas du tout comme prévu. Donc on quitte l'hôpital de Vannes et on arrive sur le lieu de cérémonie. Et là, un monde, mais au moins 300 personnes. Ils avaient préparé des choses, j'étais pas au courant. Il y avait une sono, enfin, il y a eu toute une orchestration à mettre en place et j'ai couru dans tous les sens. C'était le travail du maître de cérémonie, sauf que pour une première fois, sans être prévenu, il y a des moments où j'étais un peu comme un poisson hors de son bocal, mais ça s'est bien passé. J'avoue qu'il y a certaines choses qui me conviennent pas forcément dans les procédures mises en place, parce que j'étais dans un groupe, parce que dans les groupes, la logique mercantile prévaut. Ce qui me posait problème, c'est la standardisation et de pas avoir créé de lien au préalable avec les familles. Et c'est pour ça que beaucoup de mes collègues restent dans cette posture robotique. Et puis ça donne une stature, parce qu'en fait on n'a pas grand chose par rapport aux familles. Il faut quand même rappeler que ce métier touche à l'intime. On va manipuler le corps de leurs proches, le corps de son mari, le corps de son enfant, le corps de sa mère, de son père. Mince, être un parfait inconnu, il y a un problème. Employer des intérimaires. Donc même s'il coûte x2 ou x3 par rapport à un salarié, ça permet de les payer à l'heure, ça reste quand même plus pratique. On pouvait m'appeler pour le lendemain, pour une mission. Mais une mission de 2-3 heures, dans une précarité absolue. Tout est en process en fait. Donc un conseiller, il reçoit les familles, il ne va pas les recevoir 3 heures. Hein. Il n'a pas le temps. Les familles dans le deuil, quand elles poussent une porte d'agence, déjà, elles sont dans une fragilité et une détresse émotionnelle. Alors, pas tous, bon, d'accord. Mais bon, pour la plupart, c'est quand même un peu violent. Et là, ce qu'on met en premier lieu, c'est soit un catalogue de cercueils, soit un devis. Enfin, voilà. Pendant 2 ans, j'ai pratiqué sans diplôme. Et puis, je suis allée me former comme conseiller funéraire. Et à la suite de cette formation, j'obtiens mon diplôme et j'ai cette envie de travailler dans le public. Et donc, j'intègre le service public avec foi. Et j'ai été déçue. J'espérais décorréler l'argent et le deuil, même si le crématorium dégage quand même de jolis bénéfices qui dotent finalement la municipalité. C'est vrai que derrière, il y a des fours qui utilisent beaucoup de gaz, et il faut qu'ils tournent en continu, donc voilà, les choses sont calibrées, soit. Les cadences sont soutenues, on a finalement peu de temps avec les familles. Et quand on reçoit une famille, voilà, la première question, c'est est-ce que vous avez votre clé USB, quelque part ? La clé USB avec les 3 ou 4 musiques, les photos du défunt qu'on va monter en diaporama et la musique idoine. Voilà, j'étais naïve. Aujourd'hui, je n'ai pas été dégoûtée de mon métier, loin de là, ça me donne encore plus envie de continuer pour pouvoir le pratiquer sous une forme, on va dire, alternative. J'ai réussi à construire dans ma tête ce qui, pour moi, serait la meilleure offre et le meilleur accompagnement possible pour les familles. où en fait on déplace le point de vue, non pas sur générer déjà et d'une de l'argent et de la lucrativité, donc, mais sur un accompagnement.
Send the stones, the shade. Everybody knows quicksilver only flows one way. These days, the fever on the breeze strips the shelter from the trees and holds no rain. But I believe as colors fade, this light is still enough to guide you to my arms again, my wild love, my wild love.
I've seen my words in a blue tattoo, frozen in the skin, a drunken moment mimicking the truth. Is that enough? And poet, it's okay to store these things away and just shut up.
But I believe the hourglass still has time for us. So sing to me your melody of wild love. Call me to your arms again. I'll brave the ice, defy the flame. All hope is gone, but we still have a wild love, a wild.
C'était Le commerce de la mort, un reportage de Mariem Cissé réalisé par Anne-Laure Chanel et mixé par Jean Guilhermège et Anthony Thomasson. Merci à Pierre, à Cécile, à Nicolas, à Gaël, à Alban, à Jean-Loup et à Ici Armorique. C'est Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et c'est Luce Mourant, notre stagiaire.